بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاعه الإسلام الحمد لله. Aujourd'hui nous avons tous observé notre premier jour de jeûne. تقبل الله منا جميعا. Nous avons tous jeûné aujourd'hui, alhamdulillah, avec toute la umma islamia, comme on avait dit hier, avec les musulmans du monde entier. Nous sommes tous soumis à Allah Azza wa Jal. Nous avons fait passer l'ordre d'Allah avant nos besoins primaires, avant nos pulsions, avant nos passions, avant ce qu'on appelle nos shahawat. Shahawatul batn, ce que l'être humain veut, manger, boire, et également les pulsions par rapport à sa femme, son épouse. On a fait passer l'ordre d'Allah Azza wa Jal avant ses besoins primaires. Et comme on avait dit, c'est vraiment le jazakallah khair, c'est vraiment le grand message, la grande leçon du mois de Ramadan. C'est une tarbiya, une éducation spirituelle, une éducation de l'âme. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'a nullement besoin de voir quelqu'un affamé, assoiffé, fatigué. En aucun cas, Allah Azza wa Jal a besoin de voir une personne épuisée dans son travail, où il a faim, la personne a soif, la personne ne peut pas s'alimenter. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de la souffrance d'un serviteur. Mais Allah Azza wa Jal a donné ce cadeau, ce ibadah, qui est avant tout une éducation, un tarbiyah. C'est également une tazkiyah. Ça permet aux croyants et à la croyante de se purifier intérieurement, de faire passer l'ordre d'Allah avant ce que j'ai envie de faire. Et c'est le grand message, encore une fois, je le répète, on doit retenir. Si je suis capable de me contrôler dans ce qui est nécessaire pour ma survie, je dois être capable de me contrôler face au haram avec encore plus d'aisance, encore plus de facilité. Si lorsque j'ai soif, je reviens du lycée ou du travail, j'ai soif, et je suis capable de ne pas boire parce qu'Allah me l'interdit, ben il est encore plus accessible, il m'est encore plus aisé maintenant quand j'entends le dernier clip, le dernier rap ou le dernier téléchargement que j'ai fait sur mon portable, dernière musique. Il est encore plus aisé maintenant pour moi de délaisser ça pour Allah parce que j'ai pris l'habitude avec ces jours de jeûne de faire passer en premier, en priorité, l'ordre d'Allah. Avant de faire quoi que ce soit, je fais passer l'ordre d'Allah. Et j'espère que, inshallah, on a retenu le message de hier soir et que tout le monde a fait un sans faute. Personne n'a regardé à droite ou à gauche des petits trucs qu'il fallait pas regarder. Personne n'a écouté ce qui était haram. Et donc, d'une manière générale, on a pu construire une journée de croyants. Ça, c'est un Ramadan. C'est une naissance. Alhamdulillah, il a dit ahyana. Lorsque on se réveille le matin, c'est comme une nouvelle naissance. D'accord? Que depuis le matin jusqu'au soir, Allahumma bismika amutu. On meurt, notre âme quitte notre corps. Depuis le moment où l'âme revient dans le corps le matin jusqu'à ce qu'il quitte notre corps le soir, Inch'Allah, en cette journée, chaque personne présente, on a pu retenir les conseils d'hier soir et appliquer donc ces nasiha et contrôler son regard, contrôler ses oreilles, contrôler sa langue, contrôler faits et gestes et même ses pensées et Inch'Allah, de ne pas sortir des limites de la charia, Inch'Allah. J'espère que tout le monde a pu observer ça à la lettre. Et Inch'Allah, on le fait avec constance et istiqama en demandant à Allah Azza wa Jal de nous aider dans cette voie. Et encore une fois, si on fait un effort, c'est-à-dire que Allah voit le courage, Allah voit la bonne intention, Allah voit les résolutions qu'il y a au sein de notre cœur intérieurement, on peut être persuadé que Allah Azza wa Jal va nous accepter. Allah Azza wa Jal va nous donner la possibilité de faire encore plus d'efforts, de concrétiser notre niyyah, notre intention pour devenir, Inch'Allah, de bons croyants. Alors je suis persuadé également que la salat al-Tarawih de ce soir, la deuxième salat al-Tarawih, elle était un petit peu plus facile. Hier c'était vraiment, on pourrait appeler le décrassage, après 11 mois, sans rester plus de 10 minutes debout pour Allah. La salat la plus longue qu'on fait toute l'année, c'est salat al-Fajr, d'ailleurs l'imam. Si encore on est à l'heure. Maintenant, si on arrive au deuxième raka'at, juste quand il va faire le recours, donc on ne fait même pas 2 minutes, 3 minutes debout devant Allah. Donc depuis presque 1 an, on ne s'est pas mis debout devant Allah pendant plus de 10 minutes. Mais hier soir, c'était un décrassage, donc on avait un petit peu mal à droite, à gauche, ça étirait, comme des bakoukous, des vieilles personnes, même si on a 20, 25 ans. Mais ce soir, Inch'Allah, on sent qu'il y a un peu plus de fraîcheur, on se sent un peu plus, Mashallah, motivé. C'est comme si que le corps, il commence à s'habituer. Mais même si vous avez mal, moi, au quatrième rakat, j'avais mal à un endroit, au niveau du dos, un petit peu mal. Ou alors, il y a d'autres qui, au niveau du genou, ou alors, etc., etc. Mais même si on a un petit peu mal, au bout de 4, 5, 6, 7 rakat, on est un peu fatigué, on n'a qu'à se dire, hein, on se le dit violemment, on se fait violence, on dit que de toute façon, j'ai été créé pour adorer Allah. Même si j'ai mal, même si j'ai une crampe, même si je suis fatigué, même si la journée était longue et il n'est pas simple de rester près de combien de temps on fait 1h15 debout devant Allah, de toute façon, ce corps-là a été créé pour Allah. Ce front a été créé pour se prosterner devant Allah. Ses mains ont été créées pour être posées sur le sol, pour faire le sijda devant Allah, pour se tenir les mains pour le qiyam, pour tenir les genoux au moment du ruku' et de la génuflexion. J'ai été créé pour Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ Complété. Illa liya'budun. Facile ça là. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Qu'Allah a créé les êtres humains et les djinns uniquement pour son ibadah. Donc, mon corps entier, ça appartient à Allah. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ J'appartiens entièrement à Allah. Donc, mon corps, il est pour Allah. Mon esprit, ma concentration, elle doit être également pour Allah. Et ce qu'on avait dit hier également, quand on sent qu'on décroche, en général, c'est au 16e et 17e rakat qu'on décroche. Sans rapport avec celui qui lit, hein. Mais en général, c'est là qu'il y a une petite baisse d'attention et on commence à réfléchir programme de demain. Demain, qu'est-ce que je vais manger pour suhur? Ce matin, hier c'était pain au chocolat, on ne va pas manger tout le temps viennoiserie. Demain, est-ce que je mangeais cornflakes ou un bon macatia? Là, shaitan il commence, enfin, le fameux shaitan de Salah, il vient, il commence à travailler. D'accord? Mais là, il faut le bloquer net. Il ne faut pas laisser l'esprit s'enfuir, s'évader. Il faut le bloquer, ramener la concentration. Et si à un moment donné, on ne peut plus rester concentré sur les versets, ne serait-ce, comme on l'avait dit hier, on se dit que quel grand honneur qu'Allah me donne de me mettre debout devant lui. Sharaf wallah. Il y a des gens qui ont été créés et ils meurent à l'âge de 75, 80 ans. Ils n'ont pas iman. Allah n'a pas prédestiné pour eux la foi. C'est-à-dire qu'ils ne se prosterneront jamais devant Allah. Ça c'est khasara. Ça c'est la pire des choses. Qu'une personne toute sa vie jusqu'à sa mort ne fera pas un sijda devant Allah. Ne se tiendra pas une seule fois debout devant Allah. Alors que nous, là, on peut cumuler 1h15 debout devant Allah. Sharaf wallah. C'est un honneur qu'Allah nous accorde. C'est izza. Ça, c'est karam. Une générosité de la part d'Allah. On doit sentir ça comme un cadeau. On doit le prendre comme un cadeau. Je suis debout, même si je ne suis plus concentré, je suis fatigué parce que on ne s'est pas encore bien habitué, mais je reste immobile. Et je me dis que Allahu Akbar, quel honneur. Je suis devant Allah qui est en train de m'observer. Je dois me montrer digne de ce cadeau, de cet honneur qu'Allah me fait. Inch'Allah, on essaie de continuer tous nos tarawih avec cet état d'esprit. On ne veut pas d'état d'esprit que, voilà, on regarde à chaque fois tel imam, lui c'est 7 minutes, 4 rakats. Lui c'est 8 minutes et 20 secondes, 4 rakats. Ça c'est un fitna, ça se réveille, hein. Se réveille. Moi-même, parfois, je suis, hein, j'ai la tentation de regarder ben, qui d'entre nous il lit plus vite, qui lit plus doucement, etc. Donc, surtout, on n'est pas dans cet état d'esprit. On est vraiment dans, subhanallah, la dévotion totale pour Allah. C'est le mois où on fait le plus de ibadah. On essaie de se donner à fond pour Allah Azza wa Jalla. Toutes les personnes qui sont en train de sourire devant moi, c'est des snipers. C'est des gens qui regardent l'heure et qui notent. Je suis persuadé. Autrement, ils ne souriraient pas comme ça sans arrêt. Bon. Ce soir, alhamdulillah, on a complété déjà sourate al-Baqara, la plus longue sourate du Coran, et on a démarré sourate al-Imran. Vous vous rappelez de ce hadith qu'on avait cité, il me semble, l'année dernière ou il y a 2 ans, une fois il y avait un sahaba qui avait rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait la prière de la nuit, qiyamul layl, tahajjud. Et il dit que le prophète alayhi salatu wa sallam était en train de lire sourate al-Baqara. Je me suis joint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lisait. On parle d'une rak'at là, une unité de prière. On ne parle pas de l'intégralité de Qiyamul Layl. Et le sahaba dit que certainement le prophète alayhi salatu wassalam va s'arrêter à la fin de Al-Baqarah. Effectivement, il s'est arrêté parce que le surat s'est terminé. Et ensuite, il a redémarré Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et il a repris Al-Imran. Et il a complété Al-Imran. Et il dit, Mashallah, il a continué à lire. Et le sahaba, il était impressionné par l'endurance du prophète sallallahu alayhi wa sallam de les prières de la nuit. Alors que nous, en deux jours, on a fait Al-Baqarah et on a juste commencé, on va dire, 4 pages et demie de Sourate Ali Imran. Et vous voyez le temps que ça nous a pris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait en une unité de prière et bien plus que ça encore. Bien plus que ça encore. Donc là, on voit le décalage qu'il y a entre nos ibadas, nos actes d'adoration et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Bien sûr, c'est incomparable, mais qu'on réalise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'a pas de péché. Et malgré ça, il faisait au moins 100 fois istighfar par jour. Astaghfirullah, demander pardon à Allah sincèrement, alors qu'il ne fait pas de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas d'erreur, pas de péché, mais quand il se réveillait la nuit pour les prières, hatta, il faisait tellement des prières longues qu'on pourrait dire que ses pieds craquelaient. Hein, la peau de ses pieds, de son pied Mubarak, hein, il s'asséchait et il craquelait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses pieds enflaient tellement il restait debout dans le tahajjud, dans le qiyamul layl. Donc nous, par le biais de salat al-tarawih, on peut faire un petit peu de ce genre de ibadah, de ce genre de sacrifice, d'effort pour Allah. Donc nous devons le faire avec dévotion. Alors, le verset de ce soir, Inch'Allah, qu'on a retenu, il y a beaucoup de, tous les versets sont importants, mais on fait en sorte de ne pas reprendre un verset qu'on a déjà commenté l'année dernière ou les années précédentes, pour que Inch'Allah, tous les ans, on apprend quelques versets. Le verset qu'on a retenu, c'est un verset qui est en même temps un doua que tout le monde connaît. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ابن كثير رحمه الله. Pour faire court, on a déjà pris 11 minutes en introduction. Ibn Kathir, rahimahullah, il explique dans son commentaire, dans son tafsir, que ce verset expose les deux catégories de personnes qui invoquent Allah. Les deux catégories de personnes, on parle de croyants, qui font les du'as, qui invoquent Allah Azza wa Jal. La première catégorie, c'est-à-dire le premier couplet de verset, ce sont les personnes qui demandent « Oh Allah, accorde-nous le bien de ce monde ». Mais il ne demande rien pour le delà. On va dire que déjà c'est bien, il demande du'a. Certes, le du'a c'est l'acte d'adoration par excellence. On va dire que c'est l'acte d'adoration où vraiment on montre notre soumission à Allah et on reconnaît la grandeur d'Allah. Seulement, ces personnes, Ibn Kathir il dit que, me faire comprendre qu'il ne faut pas être comme ces personnes. Qui lorsqu'ils lèvent les mains pour demander du'a, ils demandent uniquement les biens de ce monde. Et ils oublient de demander à Allah les biens de l'au-delà également. Certes, le rizq, la subsistance, la santé, une épouse vertueuse, etc. Tout ça, ça fait partie des biens de ce monde. Mais dans le du'a, on ne doit pas se limiter à ces thématiques, à ces invocations. Chacun d'entre nous, comme on avait dit hier, on se fait du souci pour nos enfants. On se fait du souci pour notre santé. On se fait du souci quand on devient âgé. Quelle sera ma situation? Est-ce que je ne vais pas avoir tel problème de santé, telle maladie? Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'avoir un cancer. Il y a beaucoup qui ont peur d'avoir Alzheimer. Il y a beaucoup qui ont peur d'avoir telle chose, problème de prostate, d'avoir, etc. Tous les problèmes qu'on connaît tant pour les hommes que pour les dames. D'accord? C'est tout à fait normal et c'est tout à fait louable qu'une personne, plutôt que d'aller faire tous les médecins tous les 2-3 jours des analyses, etc., pour être sûr qu'il n'y a aucun problème, c'est tout à fait louable qu'une personne lève ses mains et il demande à Allah la protection. Vous savez pourquoi je souris? Je savais que je sens de très loin, machallah, ça sent extrêmement grillade, ça. Hein? Peut-être qu'on s'est invité, hein, les imams. D'accord? Donc, ces personnes qui demandent protection contre telle maladie, alhamdulillah, ça prouve qu'ils ont yaqin, qu'ils ont conviction à Allah. Et Saïd ibn Jubair, on revient au hadith, il dit qu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dit qu'une fois, il y avait des Arabes. Quand on parle de Arabes, c'est des bédouins. En général, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation et peu de connaissances. Ils ont entendu un Arabe, un bédouin, donc, il levait les mains et demandait « Oh Allah, Allahumma ja'alhu aama ghaythin wa aama khusbin wa aama wiladin hasanin. » Il demandait « Oh Allah, que cette année soit une année fertile. D'accord, tant pour notre culture, pour nos enfants, pour la famille, beaucoup de bénédictions. »
Et donc il dit que ce genre d'invocation, certes c'est louable, parce qu'on demande à Allah le bien et la réussite dans ce qu'on va entreprendre, mais ça reste problématique, ça prouve que la personne ne se fait pas suffisamment de soucis pour l'au-delà. Alors que l'autre catégorie de personnes, c'est ceux qui demandent « Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar ». C'est une personne qui sait que pour avoir la réussite dans ce monde, il doit s'adresser à Allah. Mais que la personne sait également que pour avoir le bonheur éternel, parce qu'en plus de la réussite de ce monde, il faut se faire du souci pour notre au-delà, notre akhira. Si on voulait comparer par des chiffres, quelle est l'équivalence entre la vie de ce monde et l'au-delà, ce ne serait même pas un milliardième. C'est incomparable parce que la vie de ce monde est limitée. 70 ans, 80 ans, 90 ans, il y en a qui, mashallah, ils font la résistance, ils vont jusqu'à 100 ans, 102, 103, ils ne mourent pas, ils prennent la retraite même, hein, la CAF, il se fait du souci, c'est un fondage plaisant. Donc il y en a qui, mashallah, mais est-ce que même celui qui vit 110 ans, ça doit être un des records, ça non, 110, 112, celui même qui vit 112 ans, est-ce que c'est comparable avec Al-Akhirah? Non, parce que dans l'au-delà, il n'y a pas de limite temporelle. Al-Khuloud, c'est quoi Al-Khuloud? C'est l'éternité. Et on ne compare pas ce qui est sans fin à ce qui est limité. C'est incomparable. Donc même si je dis un milliardième, c'est exagéré, c'est impossible. Donc on se fait du souci pour la fraction de seconde qu'on vit dans ce monde, mais nous devons, chaque croyant, chaque père de famille, chaque mari, de se faire du souci également pour le delà lorsque nous allons retourner auprès d'Allah. Notre imam, dans le dernier, il a lu « Wattaqu yawman » Non, pas ça. Écoute-moi. Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Mais Yassine, hein? Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Jusqu'à la fin du verset. Craignez ce jour où vous serez retourné auprès d'Allah. Normalement, quand un croyant il entend ce verset, ça doit le faire trembler. Ça doit lui faire prendre conscience que autant je suis en train de me fatiguer pour mes études, pour gagner un peu plus d'argent pour la famille, certes, ça fait partie de mes responsabilités en tant que mari ou père de famille, mais mon grand fikar, mon grand souci, ma priorité, mon objectif principal, ça doit être mon retour auprès d'Allah, parce que là-haut, on ne parle pas de quelques années, on ne parle pas de quelques euros, on parle de l'éternité. C'est Allah qui prend la décision, qui va dans le paradis et qui va dans l'enfer. Et donc les savants disent que cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire souvent. Dans un hadith, il dit, de Moussa l'imam Ahmed, حديث أنس بن مالك يقول كل بفات عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفوتي également par Imam Muslim. Anas dit qu'un des doigts, une des invocations que le prophète faisait le plus, c'est ce qu'on vient de lire dans le verset, également dans le hadith de Anas ibn Malik. Donc les savants disent que ce doigt, on doit le faire en priorité. En plus de demander tout ce qu'on peut bien imaginer, on doit également demander ce doua parce que c'est un doua jami'. C'est un doua qui englobe tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on pense et qu'on ne pense pas. Parce qu'on demande à Allah tout le bien possible dans ce dunya, de ce monde, et tout le bien possible dans l'au-delà. Et on demande la protection contre la pire des choses, c'est quoi? C'est contre le feu de l'enfer. Et donc, idéalement, quand quelqu'un est au Hajj ou au Kouf Arafat, mashallah, ça fait partie des doigts prioritaires. Vous savez également que lorsqu'une personne fait le tawaf de la Kaaba, il est masnoun entre le rukn yamani et la pierre noire de lire ce doigt Rabbana atina fi dunya. Parce que, dans ce laps de temps où les doigts sont, inshallah, acceptés près de la maison d'Allah, Baytullah, ben c'est l'occasion de demander le plus beau des doigts, le doigt le plus important, qui résume tout ce que les êtres humains peuvent demander à Allah concernant ce monde et l'au-delà. Donc on retient ce doigt, on connaît, je pense que la plupart d'entre nous on savait déjà, mais à chaque fois qu'on lève les mains, et là comme on est dans le mois de Ramadan, c'est l'occasion d'en parler, vous savez qu'au moment de rompre le jeûne, chaque personne a au moins un doigt qui est accepté par Allah. Donc si pendant 30 jours on fait des doigts avec concentration, dévotion, ben Inch'Allah ça nous fait 30 doigts acceptés par Allah. C'est vraiment magnifique. Et donc, on fasse l'effort de penser à ce doua quand on fait nos invocations au moment de rompre le jeûne. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. En comprenant ce qu'on demande, oh Allah, accorde-moi le meilleur de ce monde, oh Allah, accorde-moi le meilleur de l'au-delà, et oh Allah, protège-moi contre le châtiment de l'enfer. Et donc, les Muslims expliquent également que normalement, hein, plutôt que d'être angoissé par la fin du mois, par la facture qui va sortir, par les études de mes enfants, hein, par le mariage de mon fils, par ma demande en mariage moi-même, etc. Toutes les problématiques de ce dunya, une personne, un vrai croyant, doit se faire du souci pour ce qui est plus important. Avec qui je vais être ressuscité le jour des comptes? Est-ce que je vais être ressuscité parmi, avec Abu Bakr al-Siddiq, Umar, Uthman, Ali et les Sahaba? C'est possible, ça c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Si on était proche d'eux, on suivait leur mode de vie, assurément, Inch'Allah, on sera avec eux. Mais que dire si le jour des comptes, je me réveille avec Qaroun, Haman, Pharaon, avec les kuffars, avec les mushrikines, parce que j'imitais telle personnalité, j'imitais tel artiste, tel footballeur, tel chanteur, je ne sais pas quoi, tel acteur, c'était mon idole, na'ouz billah, c'était mon modèle. Que dire si le jour des comptes, je prends conscience qu'Allah m'a ressuscité avec eux, parce que j'aimais ces gens, j'étais proche d'eux. Ça doit être un fikar permanent, un souci permanent de chaque croyant. Comment est-ce que je vais être ressuscité? Avec quel groupe de personnes? Notre imam, le cinquième imam de ce soir, avait lu également le verset concernant la personne qui consomme l'intérêt, que le jour des comptes, il se réveille comme un fou. كالذي يتخبطه الشيطان من المس, comme une personne qui, Allah nous protège, j'ai déjà vu quelqu'un de possédé, quelqu'un qui a un shaitan, celui qui fait n'importe quoi, il crie, il hurle, il titube, il tombe, d'accord. Il dit, le jour des comptes, regardez, qu'on vient de dire qu'il y aura des gens qui seront avec les sahaba, d'autres qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, quel honneur pour eux, devant l'humanité, on va voir que c'était eux les meilleurs des hommes, d'autres seront comme des fous, parce qu'ils auront consommé de l'argent haram de ce dunya, de l'intérêt. Donc ça doit être un souci pour nous. Comment est-ce qu'Allah va m'accepter? Comment est-ce que je vais être ressuscité? Comment est-ce que je vais être appelé devant le tribunal d'Allah? Comment est-ce que je vais recevoir mon livret de compte? Comment est-ce que je vais être devant la balance au niveau de mes actions? Comment est-ce que je vais passer sur le sirat? Tout ça, ça doit être nos soucis. Et le doua qui résume tout ça, c'est le doua qu'on a lu. Hada. Maintenant, les hadiths, on va compléter avec ça. J'essaie de retrouver la chaîne de narration. Toujours le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, oui, une fois, il a rendu visite à un homme qui était très malade. Et la maladie s'appelle Al-Farkh. Et Al-Farkh, apparemment, ils disent que c'est un genre de léthargie, un genre de faiblesse. Et il y a un terme médical pour ça, je n'ai pas le terme en tête. Un genre de faiblesse que les muscles ne tiennent plus. Apparemment, que la personne était alitée, allongée, ne pouvait plus marcher, ne pouvait plus bouger. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Hal tad'u Allah bi shay' aw tas'aluhu iya ?» Le prophète m'a demandé la situation de la personne et les doigts que la personne fait. La personne dit, « Oui, au prophète d'Allah, j'avais un doigt que je faisais régulièrement. Je dis, oh Allah, si j'ai fait des erreurs, oh Allah, accorde-moi ce que je mérite de ce dunya. Punis-moi immédiatement de ce monde, afin que de l'au-delà, je n'ai plus de compte à rendre. » Vous avez entendu le doigt de cette personne? Oh Allah, si j'ai fait des péchés, envoie ma punition maintenant de ce dunya, dans ce monde, afin que le jour des comptes, je n'ai rien, aucune question, aucune reproche. Le prophète dit, subhanallah, elle dit, subhanallah, ne demande pas ce genre de doua. La tutiqu, jamais tu ne pourras supporter les conséquences de ce genre de doua. Elle dit que tu aurais plutôt dû invoquer Allah par ces termes, oh Allah, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Et à la fin du hadith, il dit, fada Allah fa shafa. À la fin, il a fait ce doua et Allah lui a accordé la santé. Et très rapidement, les muhaddithines disent qu'à travers ce hadith, cette histoire, nous voyons que Allah Azza wa Jal, il est Rahman Rahim, clément, miséricordieux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, avait beaucoup d'amour pour chaque composant de sa ummah, chaque croyant, chaque croyante. Jamais il ne souhaitait voir quelqu'un souffrir, malade, affligé, même si la personne a commis des péchés. Donc il a fait des reproches à cet homme, tu ne dois pas demander à Allah de te punir, et c'est plutôt de voir qu'Allah, il est miséricordieux, il est pardonneur. Avant de voir qu'Allah, il châtie, essaie de te de te mettre à l'esprit qu'Allah il est pardonneur, miséricordieux, il est clément, et donc, oh Allah, j'ai fait des erreurs, mais accorde-moi ce qu'il y a de mieux et accorde-moi ton pardon. Donc le prophète sallam, à travers ses paroles, a voulu faire comprendre le sahaba qu'Allah est clément, tu dois en priorité rechercher la clémence d'Allah et non pas rechercher la punition de ce dunya. Et nous voyons également l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour les sahaba. Et d'une manière générale, ça nous ramène également vers l'importance du doua, verset qu'on avait lu hier ou aujourd'hui, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي ou hier ça, aujourd'hui, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, ce verset qu'on avait commenté il y a quelques temps, l'année dernière ou avant, que l'importance du doua, que le doua, ça se fait directement avec Allah. Donc cet homme qui est malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé quel médicament, quel traitement, quel médecin tu as vu, quel hakim, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a immédiatement demandé quelles sont ses invocations et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné les bons doua à lire. Donc chaque personne doit être conscient que dans toutes les situations de ma vie, la première chose que je dois faire, c'est m'adresser à Allah. Et le meilleur des doigts, c'est ce doigt-là, parce qu'à travers ce doigt, j'invoque Allah et j'ai conscience qu'Allah est clément, miséricordieux, qu'il est capable de donner la santé, de me donner la réussite, de me protéger contre la pauvreté, contre les maladies, contre les problèmes, mais également de m'accepter de l'au-delà, de me faire accéder au paradis, de me protéger des difficultés de l'au-delà et de l'enfer. C'est pour ça que dans le Coran, il y a les plus beaux des doigts. Qu'Allah nous accepte notre offrir de comprendre ces quelques paroles, nous fasse retenir ce doua et qu'Allah nous choisisse pour être parmi les personnes qui l'invoquent tout le temps, en permanence, et développer notre iman par le biais des doua, parce que le doua c'est vraiment l'acte d'adoration, une des actes d'adoration les plus appréciés par Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.